les sales mythes de la fantaisie. Alors, je ne sais pas si on parle de leurs personnages ou des auteurs eux-mêmes, peut-être. Voilà. Alors, on aura peut-être la question dans le courant de ce café littéraire. On va finalement parler de leurs personnages en priorité, des mercenaires et des assassins. Et on va voir la Brentrix qui arrive, on va laisser s'installer tranquillement et on va commencer avec Jean-Philippe Jaworski, puisque Jean-Philippe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, double prix imaginal. Dont le premier pour gagner la guerre, dont le personnage principal est un sicaire.
Un brave homme.
Un phare dans la noirceur du monde.
Oui, tout à fait, un exemple de moralité.
Alors, qui est-il pour ceux qui n'auraient pas lu gagner la guerre, ce Benvenuto?
Donc, Benvenuto, c'est un assassin de la guilde des chuchoteurs. La guilde des chuchoteurs, c'est une société secrète de truands, d'assassins qui vérole complètement une vieille république renaissance qui est largement inspirée aussi des républiques antiques. Et en fait, les membres de la haute société, c'est une république qui est donc gouvernée par un sénat, les membres de la haute société ont toujours besoin de second couteau pour régler les affaires délicates que la diplomatie ou la corruption ne suffit pas à solutionner. Donc Benvenuto est officiellement le maître espion du podestat de la République et officieusement en fait il fait tout le salut.
Il le fait bien et finalement il n'a pas spécialement d'état d'âme.
Il peut avoir des états d'âme essentiellement quand sa vie est menacée.
On cerne un petit peu quand même ce personnage et on va y revenir tout au long de cette table ronde. Patrick, merci d'être avec nous. Bon, j'avais une question très intéressante pour vous. Hélène est dans la confidence parce que je lui ai demandé. Je voulais savoir ce qu'était un pisculotte.
Was my term for somebody who's a master of wet work. Bloody work. A wet boy is sort of a very
pas seul.
Il est pas seul.
Contrairement à ce que disait Jean-Philippe par rapport à Benvenuto. Contrairement à ce que disait Jean-Philippe sur Benvenuto, quand il a des états d'âme, c'est aussi par rapport à ses camarades et par rapport à ceux qui l'emploient finalement dans sa troupe.
Tout à fait. Il est finalement, il a des états d'âme pour ces hommes qui comptent énormément pour lui, qu'il choisit individuellement. Mais surtout, il est extrêmement pragmatique et même les personnes qu'il adore ou qu'il considère comme très importantes à ses yeux, et il sait que dans certains cas, il peut être amené à les sacrifier. Et c'est cette vision intérieure de ce sombre personnage qui, je trouvais, est assez intéressante. C'est-à-dire voir que il a une responsabilité, et cette responsabilité l'amène parfois à faire des choses affreuses.
Et on termine ce premier tour de table avec Paul Bern. Paul, je vous ai gardé un petit peu pour la fin, mais pour une raison toute simple, c'est qu'on vient d'évoquer trois personnages qui, entre guillemets, on va dire, ont la vocation de ce métier de tueur ou de mercenaire. C'est moins le cas avec votre personnage de Jeanne dans votre nouveau roman qui vient de sortir. Lui, pour le coup, on a vraiment le sentiment qu'il est à plusieurs titres victime des circonstances.
J'en ai baissé en me disant que c'était plus ou moins une erreur que j'allais être avec les types. Et puis on allait parler de méchants. En fait, je me rends compte avec Ben Foot et avec Fabien, et pas tellement avec Jean-Philippe, que ces personnages d'assassins sont pas si négatifs que ça, d'un abord profond. Et que la question de savoir si on est bon ou mauvais, elle dépasse de son métier, de ce qu'on doit faire pour ce genre. Donc je me sens en effet, mon personnage, il est contraint par les circonstances de tuer, puisqu'il est enrôlé de force. Il se retrouve dans une armée qu'il n'a pas choisie. Et d'ailleurs, il en déserte dès qu'il peut. Mais on est rapidement attiré par son destin, puisque lui ne sait faire qu'une seule chose, c'est se battre. Et il est tout de suite engagé par d'autres personnes pour le faire. Il dit tout ce qu'il demande, c'est une vie tranquille. Il a récupéré un trésor sur un pillage, et tout ce qu'il veut, c'est rentrer dans une ville et puis mener la bêtise. Surtout en gestion des pays, ne plus s'en servir. Mais les choses sont souvent plus compliquées que ça.
Il n'y a pas de bol. C'est l'archétype du mec qui n'a pas de chance.
C'est souvent le cas dans les romans, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Et finalement, voilà, il détonne un petit peu finalement dans ce casting qu'on a autour de nous, parce que, oui, en l'occurrence, les autres, on l'a bien compris, ils prennent leur parti de cette fonction et qu'il a l'heure de tuer, même si on va voir un peu au fur et à mesure que les armures se lézardent et qu'il y a quand même quelques états d'âme qui peuvent apparaître. Lui, vraiment, s'il pouvait se dispenser depuis son prochain, ça l'arrangerait.
Il a beaucoup, beaucoup tué dans sa vie, mais effectivement, c'est pas, comme c'est toi, c'est pas un sociopathe. C'est quelqu'un qui le faisait parce que s'il le faisait pas, c'était lui qui y passait. Et il a ce désir de prendre son destin en main. Il a choisi lui-même son nom. Il voudrait être un homme libre. Mais le monde se charge rapidement de lui montrer que la liberté, ça s'acquiert. Et en l'occurrence, ça passera par les armes.
Alors voilà, on évoquera le 6 personnages un petit peu différents. Jean-Philippe Jaworski, Benvenuto. C'est un personnage assez curieux parce qu'il est assez monolithique en apparence, en tout cas.
Oui, il est monolithique, mais c'est parce qu'il s'est fabriqué une cuirasse pour le coup. Hein. Oui, Benvenuto est un très sale type. Lui, il n'a pas les circonstances atténuantes d'autres personnages. Et c'est ce que je voulais. Je voulais un vrai criminel. Et en plus, un criminel sans circonstances atténuantes. Avec un parcours criminel classique.
Quel est le vrai psychopathe, là, là.
C'est un psychopathe. Alors, pour le coup, parce que le plaisir qu'il peut prendre à tuer, ce n'est pas le plaisir de tuer en lui-même, c'est le plaisir de bien remplir un contrat, de monter en quelque sorte dans la hiérarchie de sa société secrète, de gagner de l'influence et du pouvoir auprès des hommes de pouvoir. Le fait de tuer, ce n'est pas ce qui le satisfait. Bien sûr, il le raconte, hein, il dit qu'il n'y a rien de plus élégant qu'une exécution bien faite. Ça n'est qu'un moyen pour lui. En revanche, c'est un vrai sociopathe. C'est-à-dire que c'est moi avant les autres. Hein. Au service, bien sûr. Alors, et c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait très bien qui est plus puissant que lui, qui sait se mettre.
garçon, au début, il y a pas le même. Enfin, au début, il est plutôt beau garçon, à la fin, c'est moi le pire. Mais ce caractère monolithique, il est dû à la cuirasse qu'il s'est forgée, parce qu'il est conscient du mal qu'il fait. Et puis, il n'est pas exclu que s'il réapparaît, il y a une évolution du personnage. Peut-être en pire.
Ça promet. Mais Twix, on parlait justement là de cette armure. Votre pisculette Blit, c'est un exemple type d'un personnage qui s'est vraiment forgé cette armure, on parle au sens figuré évidemment, c'est composé d'un personnage très dur, sans sentiment véritablement. Il répète plusieurs fois, et c'est évidemment un des enjeux aussi de ce premier tome, qu'il ne faut pas s'attacher jamais. Donc, vous composez quand même un personnage qui lutte quand même un petit peu contre lui-même.
As you go along the series, you learn more about how Herzl became the way he is, and the long road that he suffered in order to become who he is. But I guess in the first book, he's quite a bit of a cipher. It's very hard to understand. You see these little glimmers of light in this otherwise very dark character, and it kind of undercuts his whole persona. You see him doing things that don't make sense sometimes with what he states he believes. He has a chance to kill Kyler very early on in order to save himself and in order to make his life more convenient. And he should do that by what he says, but he doesn't. So it's in that way enough to give the reader some hope for Pierce O'Brien.
Alors, je voudrais pas dévoiler trop de l'intrigue conclue, mais en fait, au fur et à mesure qu'on lit la trilogie, on apprend un peu comment Herzl Blit est devenu qui il est. Il a vraiment eu un long chemin de souffrance. Effectivement, dans le premier roman, c'est vraiment un personnage assez cryptique qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est un personnage très sombre, mais en même temps, on voit quelques lueurs. On a parfois cette impression qu'il peut être bon, mais il reste quelqu'un de très sombre. Et parfois, il agit d'une façon qui n'a aucun sens par rapport aux propos qu'il tient. Par exemple, assez tôt dans le roman, il a l'occasion de tuer Kyler, son apprenti, ce qui lui permettrait de se sauver lui-même et d'avoir une vie bien plus facile. Et si on croit tous les propos qu'il tient, il devrait agir ainsi. Mais au final, il décide de ne pas le faire. Donc quelque part, ça peut donner un peu d'espoir au lecteur par rapport à ce personnage.
D'autant qu'on a l'impression, contrairement peut-être à d'autres personnages, j'en reviens toujours à Jean-Philippe, il cherche aussi. On a l'impression que finalement, son inhumanité est quelque chose de fabriqué, mais pas naturel. Ce sont ces tendances humaines qui finalement ont tendance à revenir et à le déchirer.
Exactement, je pense que c'est tout à fait ça. En fait, Herzl Blit essaie vraiment de nier des aspects fondamentaux de sa personnalité et il en souffre. Il est convaincu qu'il peut complètement s'isoler du reste du monde afin d'éviter justement d'être blessé, de se couper complètement des autres êtres humains et de n'avoir aucune faiblesse. Mais à travers Kyler et certains sacrifices qu'il va devoir faire, il se rend compte que finalement il a tort, qu'il n'a pas suivi le bon chemin et même lui n'a parfois pas la force d'être suffisant.
veut dire avoir donné prise à la vengeance. Parce que l'idée ici, c'est de créer un personnage qui est en prise avec la réalité. L'idée, c'est d'amener la fantaisie vers quelque chose de réel, avec des gens qui ont tous leurs ambitions, leurs envies, et leur colère aussi. Effectivement, tuer quelqu'un, ça comporte des risques. Et plus il minimise les risques, et plus il a de chances de réussir. Voilà, donc il va essayer toujours de faire autrement, même s'il n'a aucune crainte d'utiliser ce genre de moyens.
Et puis il a une petite entreprise à faire tourner, l'immobilier bien vite sort.
Voilà, oui, mais c'est au-delà de ça, et c'est plus. Alors, c'est une obligation parce que je ne sais pas comment dire, mais dans le monde qui est le sien, lorsqu'on a un statut, on agit en fonction de ce statut. Et on prend les responsabilités qui sont les siennes. Voilà. Cependant, contrairement à Benvenuto, il évolue, mais il se dit. Dans le tome 2, déjà, il commence à se poser des questions, il commence à se dire qu'une vie comme ça, c'est long et que maintenant il est très riche.
Il a énormément de ses bêtises.
Voilà. Il a énormément d'argent, il a énormément de pouvoir quelque part et il commence à se demander si ce serait peut-être pas mieux de trouver un endroit très intéressant où il pourrait atterrir en quelque sorte.
Surtout qu'il commence à avoir.
Voilà, donc à un moment, à jouer sur tous les tableaux, toujours, ça finit par être un peu dangereux. Et d'ailleurs, il le paye assez chèrement dans ce second tome.
Voilà, s'il les avait tous tués, il n'aurait pas autant d'ennemis.
Bon, en fait, il en aurait bien plus parce que c'est exponentiel. On tue une personne et il y a toute sa famille qui veut se venger.
Il le découvre.
Albert, quand on rencontre Jal, il est mal en point. Il est. Peut-être pas. Je vois ce qu'on vous a raconté sur ce début, mais en tout cas, on peut communiquer qu'il est blessé. Plusieurs blessures assez graves quand il est découvert, presque agonisant. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il a, dans son délire et sa semi-conscience, il a une voix qui lui parle et qui lui. Vient régulièrement le titiller. Je crois que c'est pas forcément très agréable pour lui. Qui est Maître Okun?
Alors d'abord, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, c'est-à-dire que le métier de tueur, de mercenaire, d'assassin, c'est pas très bon pour la santé mentale.
Ne faites pas ça chez vous.
Et que ce soit Benvenuto, Fabien, ton personnage, ou celui de Prenz, ce sont tous des personnages qui sont pas très heureux dans leur. Si certains l'assument plus que d'autres. Et c'est aussi le cas de Jal. Alors lui, c'est cette voix qui lui parle, c'est un peu différent, c'est son père adoptif, son mentor, hein, qui l'a kidnappé et qui l'a éduqué pendant des années. Et donc, il essaie de s'échapper de cette emprise. Pour lui, la fuite, c'est le moyen de rompre avec ce père. Et visiblement, la vente des armes de la paranoïa n'a pas suffi à retrouver la sérénité.
Donc, on a vraiment l'impression que c'est cet embrigadement, finalement, qu'il a subi, qu'on imagine en tout cas, lorsqu'on le rencontre, qui finalement, lorsqu'il n'arrive pas à se défaire complètement, il a cette volonté d'arrêter d'être un tueur, d'être un mercenaire et de prendre une vie plus traditionnelle, plus classique, de fonder une famille, etc. Mais il a toujours. Ces paradigmes un peu qui lui reviennent en mémoire en permanence.
Alors, fonder de famille, c'est pas vraiment ses objectifs. Ce serait plutôt vivre très riche dans une maison avec ma femme.
C'est une forme de famille.
Il n'y a pas beaucoup d'enfants,
c'est une nouvelle tenue des autres, je suis désolé.
Mais effectivement, il faudrait rompre avec sa vie de tueur. Et il a cette voix dans sa tête qui lui explique que cette personne-là est très bien tuée quand même. Parce que s'il réfléchit bien, ce serait la meilleure solution pour lui. Et donc il est constamment à devoir lutter contre cette voie et à essayer de trouver son chemin, alors que son éducation le pousse en permanence à revenir dans les rails. sont encore. C'est vrai qu'il est plus. Il est partagé entre sa loyauté forcée à la société criminelle à laquelle il appartient et la fascination qu'il éprouve pour ce chef politique, qui est une crapule encore beaucoup plus dangereuse que les assassins avec lesquels il travaille. Est-ce que c'est de l'ordre de l'éthique, là, où il y a l'établissement d'un rapport personnel, qui est une forme d'amitié au sens ancien du terme, c'est-à-dire une association entre deux personnages. D'ailleurs, dans le roman, c'est une autre grande crapule de Sorcier Sassanos qui explique la relation qu'il a avec le chef politique qui est le Podesta. L'amitié, c'est ce qui est mutuellement profitable. Et donc là, il a violé un principe criminel, c'est-à-dire qu'il s'est un peu écarté des règles de sa guilde, pour approcher de quelqu'un qui peut lui être plus profitable que les risques qu'il prend, c'est également sa vie. Est-ce qu'il y a une éthique derrière tout ça? Pas vraiment. C'est surtout l'intérêt personnel de Benvenuto.
Mais il est quand même très loyal, jusqu'à une certaine forme de naïveté par moment.
Oui, il peut être trompé, effectivement. Alors, il le dit lui-même, un chef charismatique, c'est quelqu'un que ses subordonnés ont tendance à surestimer. Et du coup, en surestimant son patron, il peut être trompé par son patron, ce qui lui arrive au cours du roman. Il n'empêche qu'à la fin, en définitive, même si on ne sait pas très bien ce qui se passe entre eux à la fin, si à la fin les deux sont toujours vivants, ils sont bien tous les deux. Bon, s'il y en a un qui est mort, évidemment, ça c'est.
Benfix, est-ce que Blint, justement, lui a. Un petit peu parler, mais finalement, est-ce qu'il y a une éthique forte qui le mène dans sa vie professionnelle d'assassin?
It's got a few different sets of ethics, and all of us here, I'm sure, have and most of our audience, I'm sure, have fascination with killers, with these are the guys who get away with it. These are the guys who do the still did all these things, guys. I mean, he's still a mass murderer when it comes down to it. And that should make us feel a little uncomfortable about ourselves and our own what we love.
Effectivement, moi, ce que je voulais montrer, c'était l'aspect complètement séduisant de ces personnages qui tuent et qui s'en sortent. Vous avez un problème avec quelqu'un, c'est facile, vous le faites disparaître. Alors après, si on n'arrive pas à savoir que c'est vous qui l'avez fait, ou si de toute façon les gens ont trop peur de s'en prendre à vous, vous êtes tranquille, vous vous en sortez bien. Du coup, c'est quand même super pratique comme système. Mais quelque part, ces assassins tuent des gens qui sont de vraies personnes, qui ont de vraies vies. Le crime, c'est quand même un peu dégoûtant. Ça vous abîme l'âme, forcément. Et quand on traîne avec des meurtriers, quelque part, ce sont des méchants, forcément. J'ai deux personnages qui s'opposent dans le roman. Donc, il y a Joseph Lind, que lui, on peut apprécier, entre guillemets. Et en face, il y a Hugh Dimmett, qui est un autre assassin. Mais alors, lui, il aime ce qu'il fait. Vraiment, il s'éclate, c'est un sadique. Mais quelque part, donc, il s'oppose par rapport à ça, parce qu'il y en a un qui apprécie ce qu'il fait et l'autre moins. Mais quelque part, ce sont tous les deux des assassins. Et même si on apprécie Joseph Lind et qu'on va avoir tendance à lui pardonner ce qu'il a fait, ça reste un assassin. Et quelque part, il a bien tué beaucoup, beaucoup de gens. Et on devrait être mal à l'aise nous-mêmes d'apprécier quelqu'un qui, malgré tout, est un assassin. Ça devrait nous mettre mal à l'aise.
Très bien, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une éthique finalement dans... Le mot éthique n'est peut-être pas forcément très très bien choisi. C'est plus, finalement, c'est des règles quelque part qu'il peut y avoir, puisqu'on est au sein d'un groupe humain avec une troupe, puisqu'on ne peut pas réduire simplement le bâtard à lui-même.
Alors, comme il fait feu de pouvoir, il n'a pas vraiment. Le but, c'est justement de connaître l'éthique et les règles des autres pour pouvoir mieux les contourner, pour pouvoir mieux les utiliser. À un moment, il a le choix, à un moment, entre favoriser les puissances anciennes dont il fait quelque part partie, puisqu'il a un sang particulier qui le rattache au pouvoir du passé, ou bien au contraire de s'opposer à eux pour finalement essayer de comment dirais-je, ah, je ne peux pas en dire trop. Je suis coincé. Enfin, bref, de prendre une autre voie. Et finalement, justement, il dit qu'il va choisir l'autre. Enfin, bref, je suis coincé. il va faire un autre choix. Il fait cet autre choix, il le dit parce qu'il considère que ce sont des choses qu'il connaît, des règles qu'il connaît, des façons de faire qu'il connaît et qu'il sait contourner. Et que donc il préfère finalement choisir ce qui n'est pas dans sa nature parce qu'il le connaît et que grâce à ça il s'en tira toujours mieux. Et voilà. Bon, du coup, c'est pas du tout clair, mais
c'est obligé de lire, c'est clair. Il est de temps.
Mais je crois qu'effectivement, au-delà de ça, ce que disait Brett est hyper intéressant parce que ça pose deux questions fondamentales. D'abord, est-ce que nous mettons-nous auteur une part de nous-mêmes dans nos personnages? Et je pense que oui. Je pense que oui. Et d'autre part, je pense aussi que ça renvoie à une question fondamentale, à des questions fondamentales sur notre société. Nos héros aujourd'hui, sont des reflets de notre société, une société qui est beaucoup plus axée sur la liberté, l'individualisme. On ose aujourd'hui ce qu'on cachait hier. Les règles morales forçaient, il y a ne serait-ce que 40-50 ans, à faire attention à ce qu'on écrivait, à ne pas montrer les mauvais côtés de l'être humain. Mais aujourd'hui, ces règles.
C'est un peu les croque-mitaines d'aujourd'hui, non?
C'est pas assez un petit peu.
Parce qu'on n'est pas dans les croque-mitaines des qu'on écrit dans le temps.
Peut-être, mais je crois pas que ce soit le même
principe.
Non, je pense pas que ce soit le principe de se faire peur. Au contraire, c'est plutôt le principe de se comprendre soi-même. En nous, en chacun de nous, il y a évidemment une petite part d'ombre. On fait tous
partie des rois de ce qui se passe aux images.
mais en tout cas, on a tous une part d'ombre en nous, et quelque part, on se pardonne en lisant, en voyant ces personnages et en se disant que, après tout, avoir de l'ombre, faire des choses qui sont négatives, c'est finalement héroïque. Et par contre, au-delà de ça, pour des adultes, ça pose pas de problème, mais je pense que pour des jeunes, ça pose un problème. C'est-à-dire, quel héros on leur montre, quelle valeur on leur montre, quelles idées on leur montre, et peut-être ça pose un problème quand même, quelque part. Je sais pas.
Au-delà, l'éthique de Jeanne, on a l'impression par moment qu'elle est un peu à géométrie variable.
Alors, Jeanne, c'est un personnage fondamentalement égoïste, donc il n'a pas d'éthique. Son éthique, c'est survivre.
Il y a deux, trois principes, enfin, on va dire.
Et non seulement il est individualiste, mais il le prône, c'est-à-dire qu'il ne se lie à personne. Et au cours du roman, il va comprendre que pour son propre intérêt, il a intérêt à se lier à des gens. Parce qu'il découvre une magie, en fait, qui ne marche, qui ne fonctionne qu'à plusieurs. Donc, contraint et forcé, il va retrouver l'intérêt de ses semblables. Et donc, je ne sais pas si on peut parler d'éthique, mais au bout d'un moment, l'attachement qu'il peut éprouver pour ces gens va changer sa vision du monde.
Je trouve qu'en plus, il est embarqué dans une histoire où il se retrouve dans un lieu avec des gens où finalement, c'est tout juste si tout le monde lui jette des cailloux, lui plante virtuellement des couteaux dans le dos, même pas virtuellement du tout parfois. Donc c'est vrai qu'il est quand même aussi dans une situation où il y a les oreilles qui sifflent.
Alors il se retrouve en fait à défendre un village d'un peuple qu'il déteste, hein, parce que leurs deux peuples sont ennemis depuis très longtemps. Non seulement les gens le détestent, mais lui déteste tous ces gens. Et à part une promesse qu'il a faite, qu'il est obligé d'honorer, il ne peut pas les tuer.
Ça pose effectivement quelques soucis, surtout qu'il se rend compte que finalement, il apprend par moment par la bande que même ceux dont il avait l'impression qu'il lui était un peu favorable le débine dans son dos gentiment.
Oui, voilà, en tout cas, on peut se faire passer un peu de jour et en fantaisie non plus.
Il y a quand même quelques principes, parce que on le voit par rapport aux enfants, par exemple. Il y a quand même y a des moments où on sent que ça lui déclenche quelques réflexes d'humanité.
Alors, je pense qu'on a tous quelque chose profondément en nous qu'on ne peut pas détruire, même si on se fait une armure, même si on nie toutes nos valeurs. Si on ne veut pas devenir fou, il faut se raccrocher à quelque chose. Et là, effectivement, c'est raccroché à quelqu'un, en fait. Sa santé mentale étant vacillante, il a sauvé une petite fille. Hein, qui... Et donc, même s'il la cache, hein, ça reste la seule chose à laquelle il se rapproche pour dire je ne suis pas. Je ne suis pas comme mon père adoptif, espèce de salopard, je ne suis pas comme tous ces gens que j'ai croisés et qui tuent. Moi, j'ai fait au moins une bonne action dans la vie. Et sur cette unique. Sur cette pierre de rosette, hein, on sent que ce personnage met encore de l'espoir pour lui. Même si on n'est pas sûr qu'il se concrétise.
C'est effectivement un personnage très, très contrasté et qu'on a envie de voir évoluer, même si, évidemment, encore une fois, on va lui demander d'abord de se battre. C'est quand même aussi toujours le même problème. Jean-Philippe, Benvenuto, on parlait des tensions politiques de la guerre de 100 ans. Benvenuto, lui aussi, finalement, il est tributaire des tensions qui existent dans ce vieux royaume.
Vous noterez quand même que Fabien Cerutti a avoué et compte tenu du cadre du bâtard de Cossigan, quand même, il a avoué s'identifier à des types abominables comme l'archiprêtre ou le petit Cruzis, qui était le capitaine des pires affreux qui existaient dans l'histoire.
C'est moi, je l'ai capté.
J'ai dit qu'il avait une minuscule barbe. Donc, pour ne pas être en reste, oui, bien sûr, il trempe dans des intrigues politiques.
Et je te demande, est-ce qu'il y a de quoi dans Benvenuto, si tu veux.
quelqu'un qui vient du ruisseau, pas tout à fait du ruisseau en fait, mais bon, sa famille a déchu, comme il est effectivement très égoïste, hein, c'est-à-dire la fascination qu'il éprouve pour son patron, c'est en fait la fascination du pouvoir. Il faut se représenter un homme issu de peu dans une société très hiérarchisée qui a la possibilité de vivre dans un palais, d'être considéré, même si c'est un homme de nombre, comme quelqu'un d'important dans l'entourage d'un grand. Il vend son âme pour ça, parce que pour lui, c'est la réussite. Et à partir de ce moment-là, il prie dans tout un réseau tout un réseau d'intrigues politiques, d'intrigues diplomatiques, dès le début du roman, en fait, hein, puisqu'il est l'émissaire secret dans le cadre de tractations de paix. De toute manière, la politique a besoin de ce genre de personnages. Hein. Pour aller au plus vite, Gagner la guerre, c'est un roman qui est inspiré de Machiavel et Nicolas Machiavel dans Le Prince, et il pose les principes qui justifient la raison d'État. Et la raison d'État, c'est le principe qui justifie tous nos services secrets, qui ont toujours en France des actions homo, c'est-à-dire des actions d'assassinat. Ça. À partir du moment où Gagner la guerre est une illustration fantaisie de la pensée de Machiavel, Benvenuto, c'est le bras armé de la raison d'État qui a besoin de très très sales types, hein, de ce qu'on appelle en France des barbouzes, hein, c'est un barbouze.
Hendrix, on l'a dit, dans Je la nuit, c'est aussi dans son premier temps un roman d'apprentissage, un cas d'apprentissage un peu particulier, puisqu'il s'agit d'apprendre à devenir un tueur. Forcément très évident. Et vous avez beaucoup parlé de cette relation entre Blint et Kayla. Moi, je voulais qu'on parle d'une scène en particulier, qui est la première mission de Kayla, justement. La première fois où il doit tuer. Il pense être tranquille, tout seul, et puis peut-être trouver des billets pour pas. Et puis il se rend compte que finalement, il est quand même sous surveillance et que derrière. Mentor est là et le rappelle à l'ordre en lui rappelant quand même que l'essentiel de sa mission, c'est de tuer.
chacun ait sa responsabilité et ses actions propres. En réalité, ça change et ça changera s'il y a d'autres tournes encore d'une fois sur l'autre, selon les besoins. Ce sont des gens, souvent à part les éventuels jeunes membres de sa compagnie, ce sont des gens qui ont les moyens, qui ont les capacités d'agir seuls, chacun dans leur domaine en quelque sorte, pas forcément tous, hein, mais il y en a quelques-uns qui ont suffisamment de cordes à leur arc pour pouvoir faire le travail de leur côté en solo, en solitaire également.
Et comment ils gardent le contrôle? Parce qu'on sent quand même que c'est un personnage qui dirige tout finalement.
Alors ils gardent le contrôle en essayant, alors c'est pas forcément précisé toujours, mais ils gardent le contrôle en essayant de comprendre ce qui motive chacun de ces hommes et de leur donner. Et de leur donner plus que ce qu'ils espèrent. À partir de là, il sait bien qu'il ne peut jamais faire confiance 100% à quelqu'un. Il est donc un peu prudent, mais il considère que si un être humain a ce qu'il veut et un peu plus, voire beaucoup plus, alors il est fidèle.
Et puis il y a une graduation par rapport au danger de la mission.
Voilà, évidemment, exactement. Et voilà, s'il y a plus à perdre, beaucoup plus à perdre qu'à gagner, pourquoi quelqu'un. Mais ça peut arriver tout de même, parce que l'être humain est étrange.
C'est un vrai chef, finalement.
Normalement, oui.
Et on voit que par moments, ça l'aide bien, quand même, parce que tout ça, il a du mal à sentir.
Ah, ben, de toute façon, enfin, l'idée d'un travailleur solitaire qui contrôle tout, c'est concrètement très difficile à réaliser dans une éventuelle vraie vie. On a besoin d'une équipe pour faire certaines choses vraiment délicates ou des manipulations à grande échelle. Seul, c'est très difficile.
Paul, on l'a dit avec Charles, quelqu'un qui aspire au calme, à la tranquillité, et qui finalement se retrouve à devoir accomplir une mission, quelque part, c'est qu'il a accepté pour sauver sa vie finalement. Ça lui donne des responsabilités qui est exactement finalement ce qu'il fuit au départ. Comment est-ce que justement il va assumer ça? Comment est-ce que il finit par se persuader, même si on voit dès le départ qu'il a quand même bien dans la tête que à la première opportunité, il va mettre les voiles.
Si tu veux bien, je ne vais pas répondre exactement à cette question.
Je t'en prie.
Je vais faire remarquer que dans ma scène de souvent, il y a quand même un rapport. C'est donc un jardin agonisant dans une forêt et une jeune femme qui le voit et qui le voit agonisant. Et avant que celui qui le fait promettre de sauver sa vie. Donc en fait, le personnage le plus dur de ce roman, mais je m'aperçois en regardant les trois que j'ai autour de moi, que c'est toujours le cas dans les romans, ce ne sont pas les hommes qui sont pires, ce sont les femmes. Et je trouve que ça manque une touche féminine dans cette conférence. Et voilà, donc tout part des femmes, et notamment dans ce roman-là, tout part d'une femme qui est beaucoup plus froide finalement et cruelle que Jeanne. Même si ce n'est pas un personnage négatif, antipathique, puisque son but c'est de défendre sa vallée et ses gens, parce que c'est la dame de cette vallée. Et c'est elle qui lui donne cette responsabilité. Et qui lui dit, moi je suis pas un soldat, toi tu es un soldat, donc tu dois faire ce travail pour moi. Et pouvoir de l'art, c'est souvent le cas.
Et justement, assumer ses responsabilités, c'est lourd, quoi, c'est compliqué pour lui.
Alors, Jeanne, c'est un personnage un peu chien fou, un peu fou furieux, jeune et impétueux, qui est instable. Donc l'idée même de commander à des gens, lui, insupportable, c'est aller pour les morts. Mais les circonstances sont parfois plus fortes que la volonté du personnage.
Et il va devoir surpasser sa nature et sa personnalité propre. Voilà, on a terminé ce tour des assassins et des mercenaires. Et ça n'engendre pas forcément la mélancolie non plus. Et puis on va remercier les quatre auteurs présents ici et vous inviter à aller les retrouver sur la bulle du livre. Et pour continuer, pourquoi pas les discussions, prendre des adresses si quelqu'un se sent la vocation. Et puis évidemment faire dédicacer vos ouvrages. Merci aux auteurs, merci à vous d'avoir été présents. Et merci à Hélène pour la traduction.